France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La sécurité sera renforcée devant tous les établissements scolaires à la rentrée prochaine, le 2 novembre, dans deux semaines. L'Élysée l'a annoncé tard hier soir après un conseil de défense. Deux jours après l'attentat contre un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, qui a été tué par un Russe d'origine tchétchène vendredi, non loin de son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Hier soir donc, Emmanuel Macron a réuni 6 ministres ainsi que le procureur antiterroriste. Il promet des actions concrètes, notamment contre les appels à la haine sur les réseaux sociaux. Des mesures seront prises également contre des structures, des associations ou des personnes qui diffusent la propagande islamiste. Des procédures seront d'ailleurs lancées contre les auteurs de messages de soutien à l'attaque contre Samuel Paty. 80 messages ont déjà été identifiés sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ce matin, 11 personnes sont toujours en garde à vue, dont deux, un père de famille et un militant islamiste qui avaient réclamé des sanctions à l'encontre du professeur parce qu'il avait montré en classe des caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo pour évoquer la liberté d'expression. En mémoire du professeur, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier. Élus, responsables d'associations et enseignants se sont notamment mobilisés. Plus de 1900 malades du Covid-19 en réanimation en France. Ce nombre a encore augmenté hier. Il y a eu 33 400 décès depuis le début de l'épidémie. Paris et sa région et 8 autres métropoles comme Lyon, Toulouse ou Grenoble ont vécu leur troisième nuit de couvre-feu, soit près d'un tiers de la population. Des soldats tués par des tirs d'artillerie dans le Haut-Karabakh. La trêve décidée samedi soir n'est pas respectée. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se renvoient la faute. Nous irons sur place grâce à notre envoyé spécial dans le journal de 6h30 dans une demi-heure.
8 mois après le début de la crise du coronavirus, c'est bien le FMI qui l'a dit par la bouche de son responsable des affaires budgétaires. Les gouvernements devraient envisager des impôts plus élevés pour les ménages les plus aisés.
Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et cela alors même que la fortune des milliardaires a atteint de nouveaux sommets. Alors, faut-il taxer les riches ?
Le temps du débat, ce lundi à 18h20 sur France Culture et sur l'application Radio France.
Entendez-vous l'écho s'infiltre dans les réseaux criminels pour suivre le fil de l'argent sale.
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
On se penchera sur l'économie du deal dans les cités et sur les multinationales du crime avant de se lancer à la poursuite des banksters, ces gangsters de la banque. Escrocs et truands, prenez garde, l'écho est à vos trousses.
Du sang à l'oseille, entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
6h03 sur France Culture, c'est l'heure du Monde Vivant, chronique de Bruno David, qui se penche ce matin sur la salamandre.
La chronique du jour est consacrée à la salamandre, plus exactement à la salamandre tachetée, Salamandra salamandra, de son joli nom latin. Cette salamandre est un petit amphibien familier de nos campagnes et de nos forêts. Elle a la peau lisse et froide, elle est longue d'une quinzaine de centimètres. Elle est noire, tachetée de jaune vif, d'où son nom. Quelle beauté cette salamandre! Comme tous ses cousins amphibiens, elle dépend du milieu aquatique, ses œufs étant sensibles à la dessiccation. Paradoxalement, pour un animal lié à l'humidité, la salamandre avait dans le passé la réputation de pouvoir traverser le feu sans dommage. On prétendait même qu'elle était engendrée par le feu. C'est en tout cas ce que racontait en 1590 Joachim Camerarius le Jeune, qui était médecin et botaniste, et qui écrivait « Voyez la salamandre qui traverse les flammes ». Forte de ce pouvoir exceptionnel, la salamandre a été choisie par un de nos rois les plus flamboyants, François Ier, qui l'a pris pour emblème, comme en témoigne la salamandre sculptée au-dessus de la porte d'honneur du château d'Amboise. On peut également l'admirer dans les caissons des plafonds de Chambord, c'est dire si elle occupait dans les symboles de cette époque une place de choix, la toute première place. Forte de ce symbolisme, la salamandre a même réussi l'exploit de donner son nom à une marque d'appareil de chauffage, marque déposée en 1889, désormais recherchée des chineurs. Mais bien avant l'époque glorieuse de ces symboles, un animal cracheur de feu, qui avait tout du dragon, était déjà dénommé salamandre. Il s'agissait en fait d'une créature légendaire des bestiaires médiévaux, créature qui était réputée prendre des bains de feu. D'ailleurs, celle de François Ier a des petits airs de dragon. Alors, est-ce pour avoir porté le même nom que notre jolie petite salamandre noire et jaune fut considérée incombustible? Ou bien est-ce plus simplement que des salamandres hibernant dans le bois mort se retrouvèrent quelquefois brutalement réveillées par un départ de feu dans une cheminée et dont elles se sauvèrent vivement? En tout cas, cette histoire d'animal inifuge intrigua le physicien Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Au XVIIIe siècle, il se chargea de tester cette superstition. Écoutons Maupertuis. Toute fabuleuse que paraît l'histoire de l'animal incombustible, je voulus la vérifier. Et quelque honte qu'ait le physicien en faisant une expérience ridicule, c'est à ce prix qu'il doit acheter le droit de détruire des opinions consacrées par les anciens. Maupertuis n'hésite pas. Il met des salamandres au feu et constate qu'elles y brûlent bel et bien, puis rédige son protocole. Une magnifique leçon de science, mais il faut admettre qu'elle était quand même un peu cruelle. Aujourd'hui, notre jolie salamandre, dépourvue de sa légende, est retombée dans l'anonymat. Dommage, car elle mérite vraiment d'être connue.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les lundis, on parle de l'actualité des livres. Et aujourd'hui, on reprend notre sélection des premiers romans de la rentrée qui nous ont marqués. Avec donc deux invités ce matin, Lou Darsan qui publie à la Contre-Allée L'Arrachée Belle et David Fortems qui publie chez Robert Laffont Lui veut partir. Deux romans contemporains sur l'impossibilité de fuir son milieu social ou sur le prix à payer quand on se paye le luxe d'échapper à toutes les assignations. Lou Darsan et David Fortems sont mes invités ce matin.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour tous les deux. Bonjour David Fortems. Bonjour Lou Darsan.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné d'ailleurs envie de vous lancer dans la littérature, d'écrire ce premier roman pour vous, Lou Darsan?
Je pense que c'est l'écriture qui a toujours été là et j'ai toujours écrit. Et je pense qu'à un moment... les notes ont formé un roman et vraiment c'est quelque chose, c'est pas juste écrire voilà, pour témoigner de quelque chose, c'est vraiment faire jaillir des sensations, des perceptions et puis après voilà, l'histoire qui est sortie est ce qu'elle est.
Et David Fortems, pour vous?
Mais de manière assez similaire, je pense que l'écriture c'est avant tout un métier, donc c'est voire même une vocation, donc on y... Moi, j'ai toujours aussi voulu écrire et par contre, moi, je prends pas de notes, donc j'ai des plein de, enfin, tout se passe dans la tête et ça jaillit au moment de la rédaction, mais c'est pareil, ça a toujours été là.
Lou Darsan, pour parler de votre premier roman, donc L'Arrachée Belle, c'est l'histoire d'une femme qui décide presque du jour au lendemain, même si elle réfléchit au début et puis elle décide de tout quitter, claquer la porte à sa vie d'avant, à sa vie de couple. Et on devine un peu pourquoi, parce que elle était très seule dans sa vie de couple, quitter le monde et puis partir. Alors au début, elle sait pas où elle va et surtout, on ne sait pas où elle nous entraîne. Alors d'abord en voiture, ensuite en autostop, ça finit à pied et puis on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on avance dans cette histoire très étrange que ce voyage, c'est peut-être une manière pour le personnage de votre roman de trouver un sens à la vie, de se ressourcer et pour arriver bien sûr au thème contemporain, pour rentrer en harmonie avec la nature. Mais on ne sait pas grand-chose sur cette femme. D'ailleurs, on ne sait même pas comment elle s'appelle.
Elle n'a pas de nom et c'était vraiment, vraiment volontaire parce que je voulais que cette femme qui quitte vraiment tout ce qui fait son identité ne puisse plus être définie par autre chose qu'elle-même et ce qu'elle ressent. Et le prénom en faisait partie avec voilà, cette espèce d'idée effectivement que... Elle va vers une forme de, de dépouillement de plus en plus total. Voilà, dans le but de se trouver. Et ce qui va se permettre, oui, c'est ça, par une harmonie avec la nature, mais surtout aussi par ses perceptions, ses sensations. Et je pense que c'était vraiment ça, pour moi, qui la relie, finalement.
Alors, ce qui rend votre récit intéressant, intriguant, c'est que on n'est pas dans la facilité où la nature, c'est très bien, la nature, on va la découvrir, la nature, elle va nous ressourcer. Ben non, parce que c'est une quête qui est plutôt dure, hein. C'est âpre, c'est mystérieux. Vous faites souffrir votre personnage et donc le lecteur qui la suit.
Oui, parce que déjà, je pense que qu'on décide de tout quitter du jour au lendemain, c'est déjà, je pense qu'on souffre. C'est rare de faire ça quand on n'a pas une nécessité presque impérieuse de se défaire ou de quitter ce qui ne va pas et ce qui enferme. Et puis la nature, elle est à la fois très belle, mais c'est faut composer avec, surtout quand on a l'habitude de vivre enfermé dans un appartement, un travail, une voiture. Et la rencontre provoque forcément des frictions corporelles ou même, enfin voilà, c'est quelque chose de fort de se retrouver tout seul. Mais au bord d'une route, ouais. Marcher pieds nus.
Oui, parce qu'elle réinvente voilà. Le nomadisme en Europe. Hein.
Voilà, ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Le nomadisme, c'est un terme que j'emploie. Et je pense qu'elle passe d'une errance réelle, où elle ne sait pas du tout où elle va vraiment au début là où on l'amène, en autostop, où elle a, enfin voilà. Et puis finalement, avec... de plus en plus, l'errance se transforme en je vais quelque part, même si je ne sais pas encore où. Et puis il y a cette espèce d'idée qui est importante pour moi de descendre de la montagne vers la mer. Je pense que c'est une forme de nomadisme.
Quand j'ai fini de lire ce roman, j'avais l'envie de mieux vous connaître, puisque c'est votre premier roman, L'Arrachée Belle. Et vous vous êtes présenté en disant je me considère comme écrivain nomade.
Ouais, je crois que j'ai dit écrivaine,
mais oui. Elle est écrivaine, oui, bon.
Mais oui, c'est vrai que ça fait 3 ans aujourd'hui, un peu plus maintenant même, que je voyage et que du coup je me considère comme nomade, c'est-à-dire étant toujours en mouvement entre deux points, même si...
Chez les uns, chez les autres ou...
Je l'ai vécu de plusieurs façons en 3 ans. Actuellement, j'ai un petit van aménagé donc qui me permet de voyager à travers l'Europe. Donc c'est pas du tout du dépouillement, c'est quand même une maison sur roulette et c'est très confort, c'est très cosy. Je pense que c'est venu progressivement, puis il y a une forme de fascination depuis l'enfance en fait, et un désir de voyage, mais qui soit pas juste aller quelque part et revenir, mais plutôt un intérêt pour le fait d'être dans une forme de mouvement comme ça, être toujours pas sur la route, mais parce qu'il faut aussi savoir faire des pauses.
Et des pauses pourquoi voilà. Pour travailler, pour avoir un peu d'argent et continuer à mener ce genre de vie.
Voilà, éventuellement, puis ne serait-ce que parce que je pense que c'est pas tenable de se déplacer tous les jours à un moment. Le corps comme l'esprit, on a besoin déjà d'un peu plus de confort que quand on se déplace, et puis de pouvoir se dire je suis là et j'habite là, dans cet endroit, et tout en sachant que c'est provisoire et qu'on va dire au revoir. Je tiens pas en place en fait, je crois qu'au bout de maximum 4 mois quelque part, j'ai besoin de partir.
Mais il faut avoir les moyens de partir, Lou Darsan. Vous faites comment vous pour vivre?
Je vis de très peu, en fait. Je vis de très peu.
En travaillant un peu à côté.
Voilà, de temps en temps, de façon très très alimentaire, ouais. Et voilà, puis en ayant mis aussi des économies avant de choisir ce mode de vie, bien sûr. Je pense que c'est une manière de vivre différemment, mais enfin voilà, je peux pas dire je suis sortie du système ou quelque chose d'un peu. Une sorte de poncif comme ça, parce qu'on peut pas. Enfin voilà, on vit. Quand on se déplace, on met du diesel dans sa voiture, on prend parfois l'avion, on fait des courses.
Ouais, autre qualité de votre premier roman, L'Arrachée Belle, c'est-à-dire, y compris quand on est dans la nature, vous rappelez que, par des petits détails, que la belle nature verdoyante n'existe pas. Hein. On tombe toujours sur une maison, sur une station d'essence. C'est-à-dire que la vie urbanistique, elle est partout.
Surtout en Europe, je pense qu'il y a peut-être encore de grands espaces sauvages ailleurs dans le monde, même s'ils se réduisent. Mais c'est vrai que quand on se déplace en Europe et même en France, moi j'ai beaucoup déambulé à travers la France et les espaces complètement de pleine nature n'existent pas. Et en même temps, c'est aussi ça qui permet de faire des rencontres et de voir comment les gens vivent dans un endroit. Et ce que je trouve vraiment fascinant, les différences de territoire, les glissements, que ça soit de paysage, mais dans aussi les glissements urbains, les glissements dans la façon dont on vit. On part d'un endroit, souvent, pour certains endroits qui sont plus désolés que d'autres.
On est influencé par le milieu qu'on habite?
Ouais, je pense. Je pense, forcément.
Je vais vous demander de lire un extrait de votre roman, L'arrachée belle, Lou d'Arçon.
Oui. L'humidité de l'aube se dépose sur ses épaules, à l'heure fraîche et pâle où le corps résiste à l'éveil. Elle s'accroche en vain au sommeil. Trop de blancheur dans le ciel et de rosée dans les herbes. Elle voudrait attendre le soleil, mais le froid s'installe. Elle a dispersé les braises avant de s'endormir au bord du foyer. Il lui faudrait un café, mais elle est seule, au milieu de nulle part. Alors elle se lève et se défroisse, engourdie. La rosée a humidifié sa robe de coton, qui colle au dos et aux cuisses. Elle l'enlève en grelottant et la lance sous la voiture, pour marcher nue dans la prairie, en évitant les chardons que le matin fait argenter dans l'or clair des graminées.
Je n'ai pas peur de la route, faut la voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins. Bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra.
Lui veut partir est le premier roman de David Fortems, édité par Robert Laffont. Pascal, un ouvrier syndicaliste, on est dans les Ardennes. Hein. C'est très important de dire qu'on est dans une petite ville des Ardennes. Et Pascal, cet ouvrier, donc, n'arrive pas à faire le deuil de son fils, lui, qui s'est donné la mort l'année de ses 18 ans. En récupérant le téléphone cellulaire de son fils, un fils qu'il a élevé seul, eh ben Pascal va apprendre un peu la vie cachée de son fils. Parce que partant de ce téléphone de son fils, il va à la rencontre de ses amis et de ses amants cachés. Ce qui est remarquable dans votre écriture, David Fortems, c'est que on est très très loin du drame larmoyant. C'est écrit, vous nous éloignez dès les premières pages du rivage du drame, parce que ça aurait pu être juste un drame d'un père qui perd son fils. Et ce qui vous intéresse, c'est beaucoup plus de décrire une ville, de décrire des gens, et de décrire justement cette impossibilité de communication entre un père et son fils.
Oui, bien sûr. Alors, si c'est pas un drame larmoyant, j'ai l'impression que c'est parce que moi, je suis pas larmoyant. Donc, moi, j'ai pas tendance aux larmes. Donc, je n'ai pas tendance à l'écriture trop dramatique, même si le sujet, on m'a souvent dit que le sujet de prime abord fait un peu déprimé. Donc, c'est vrai, mais j'aime aussi dire que c'est une histoire, pleine d'espoir, pleine avec de l'humour aussi. Évidemment, c'est un deuil tout frais, donc c'est normal que ce soit tragique. Mais oui, j'ai l'impression que il y a du Pascal arrive Pascal arrive à faire la connaissance de son fils, même de manière posthume, et je suis pas sûr que tout le monde y arrive.
C'est quand même étrange, vous êtes très jeune, vous avez 24 ans, David Fortems. Vous avez réussi vos études, hein, puisque vous êtes admis dans cette école prestigieuse du cinéma qu'est la FEMIS. Et pourtant, vous venez avec un texte qui commence comme ça, par la mort tragique d'un jeune de 18 ans.
Oui, bah parce que moi, je suis pas du tout comme Louis, c'est-à-dire que je me considère comme rigoureusement du côté de la vie. C'est ce que je trouve d'ailleurs bien dans l'histoire de Lou, c'est que
Lou Darçon,
de Lou Darçon, c'est que son personnage est du côté de la vie. Pour être en rupture comme ça et pour trouver une solution malgré l'enfermement, il faut être résolument du côté de la vie. Et Louis ne l'est pas du tout puisque Louis ne voit que les contraintes et il n'arrive pas à les surpasser. Il se dit pas que ces obstacles pourront être des forces. Et son voilà, il trouve que son milieu social et surtout une espèce de je veux rien dévoiler évidemment de ce qui arrive, mais voilà, il se trouve déjà condamné et il va pas au-delà de cette condamnation. Donc j'ai pas du tout la même histoire que Louis, donc c'est pour ça que j'ai pas le même parcours.
Mais alors pourquoi commencer votre vie littéraire, David Fortems, en racontant cette histoire? Parce que il est bien sûr question du déterminisme social. Mm-hmm. Et il est aussi question des Ardennes. C'est les territoires des industrialisés et oubliés de la France d'aujourd'hui.
Oui, alors pourquoi? Tout simplement parce que moi je pense écrire aussi des vies que j'aurais pu vivre quelque part ou que j'aurais alors là en l'occurrence pas eu envie de vivre, mais je pense que ces histoires peuvent être des possibilités, quoi. Donc, moi, je viens pas d'un milieu social favorisé du tout. Ma famille est originaire des Ardennes, donc c'est pour ça que je voulais l'inscrire en littérature dès mon premier écrit. Mais du coup, j'ai l'impression que, les volontés qu'a Louis de s'en sortir, etc. J'ai eu les mêmes, sauf que Louis n'a pas pris les bonnes décisions. Il s'est engagé dans des voies qui n'étaient pas les bonnes, qui le mène à sa perte, ce que moi j'ai eu la chance de ne pas faire parce que moi j'ai eu de l'aide et qu'on m'a aidé, qu'on m'a conseillé, que j'ai toujours eu des gens à qui parler alors que Louis est résolument seul. Donc je trouvais
des gens à qui parler et des livres comme réconfort, parce que votre personnage c'est un féru de livres.
Oui, c'est un féru de littérature, mais je montre bien, j'ai l'impression dans le livre que la littérature ne suffit pas.
Ouais.
C'est-à-dire que les livres, c'est pas malgré tout, ça n'est pas la vraie vie. C'est une aide merveilleuse et c'est une compagnie merveilleuse aussi, le livre, mais un livre, ça ne règle pas des problèmes quand ils sont ultra concrets comme ça. Il faut toujours, le livre peut emmener à tendre la main vers quelqu'un. Il peut provoquer ce désir de demander à l'aide, mais s'il le provoque pas, le livre ne sert à rien. Donc là, Louis, en l'occurrence, ne demande pas d'aide, donc il se retrouve tout seul à prendre une décision qui n'est pas la bonne, enfin qui est tragique.
On imagine que vous avez lu Retour à Reims de Didier Iriban, ainsi que tous les romans d'Édouard Louis, sauf que vous êtes arrangé pour que votre premier roman ne soit ni un brûlot politique, ni une fable militante, mais plutôt un conte cruel d'aujourd'hui.
Oui, évidemment, c'était des inspirations. Bon, Édouard Louis et Iriban, ce sont des inspirations parce que je me reconnais un petit peu dans leur trajectoire, je me reconnais un petit peu dans leur pensée aussi. Mais bien sûr, j'allais pas faire du Édouard Louis, j'allais pas faire du Iriban, ça n'a pas de sens. Donc, ce sont de grandes inspirations, mais je me permets de faire. Moi, je pense à ma manière, quoi. Donc, j'écris comme je pense. Et alors on me dit souvent que ça rappelle évidemment, on me le dit très régulièrement. Virginie Despentes aussi, ça revient souvent, mais c'est parce que évidemment ce sont des gens de qui je me sens proche et qui ont des trajectoires qui ressemblent à la mienne.
Vous allez lire un extrait de votre premier roman, Lui veut partir.
Bogny-sur-Meuse, la petite ville des Ardennes où Pascal a toujours vécu, est une nouvelle ville, un regroupement de trois villages. Château-Renaud, Braux et Levrézy, qui en font une ville éclatée sans réel centre. La petite maison de Pascal se trouve sur les collines de l'ancienne Château-Renaud. Pascal court, l'air frais sur son visage. Il court. Il se débarrasse de sa veste de costume qui empêche ses gestes d'atteindre leur ampleur, la jette par terre avec colère, l'abandonne derrière lui. Il se débarrasse aussi de ses chaussures qui lui meurtrissent les pieds alors que son pantalon trop serré, qu'il s'était offert pour un mariage ou une communion, craque à l'entrejambe. Tout ce qui lui passe par la tête, c'est cette question avec laquelle il faudra dorénavant se lever tous les jours. Comment survivre à la mort d'un enfant qui a choisi de perdre sa propre vie ?
Voilà un extrait de « Lui veut partir » de David Fortems, lu par l'auteur. Lou Darçon, vous avez lu le roman de David Fortems. Comment vous l'avez lu ?
Je l'ai lu dans le train.
Oui.
J'ai trouvé que c'était un parti pris intéressant. Justement, mais j'ai évidemment aussi pensé à Héribon et à Édouard Louis, mais de prendre la voix du père, en fait, et un père qui a, malgré son amour pour son fils, ne le connaît pas du tout. Et ouais, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez terrible, en fait, cette distance entre ces deux personnes qui se côtoient sans se parler. Et je trouve que c'est un biais vraiment intéressant.
Alors, Lou Darçon, on le sait, quand je lui demandais comment je pourrais vous présenter, vous m'avez dit écrivaine nomade, et vous avez dit écrivain queer.
Absolument, écrivain queer. Parce que c'est quelque chose qui va au-delà, qui va au-delà des normes genrées. J'ai l'impression que moi, je tire une certaine fierté, en tout cas, d'avoir une trajectoire un peu transfuge, qu'elle soit de classe, qu'elle soit de genre, etc. C'est une construction identitaire. Voilà, c'est la construction identitaire qui est la mienne, à laquelle je suis venue. Oui.
Et vous voulez continuer à écrire des histoires en passant par la littérature ou c'est plutôt le cinéma, les séries, vous qui êtes à la FEMIS en ce moment, David Fortems?
Les deux. Je vais continuer évidemment à écrire des romans parce que c'est une façon de... Enfin, voilà, le roman, c'est l'écriture de l'intériorité, c'est l'écriture de l'intérieur. Donc c'est une écriture aussi qui peut se permettre l'omniscience, qui moi me fascine. Donc c'est pour ça que j'écris des myriades de personnages qui pensent tout à fait différemment, qui... On voit aussi que deux versions d'une même histoire sont toutes les deux valables alors qu'elles ne sont pas ressenties du tout de la même manière. Alors que l'écriture du cinéma et de la série, alors moi c'est plutôt des séries, c'est une écriture de l'image. Donc à partir de là, il n'y a pas de pensée, il n'y a que des actes.
Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre est édité par Robert Laffont, Lui veut partir, et Lou Darçon, pour votre livre, L'arrachée belle, c'est chez...
La Contre-Allée.
Merci d'être venus tous les deux ce matin.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Corinne Amar m'a aidé à préparer cette émission, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son, Pierrick Charles. Passez une bonne matinée sur France Culture, on se retrouve demain à la même heure.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Salutations au soleil, ouverture des chakras. Cette semaine, LSD se met au yoga.
Sur France Culture, déroulez votre tapis avec Perrine Kervran.
Stage intensif d'une semaine, Bikram ou Kundalini. D'où vient le yoga? Pourquoi a-t-il envahi Instagram? Et comment peut-il s'appliquer à la vie? Alors namasté et surtout, on respire par le nez.
La série documentaire du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Deux concerts exceptionnels de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Les 22 et 30 octobre à l'Auditorium de Radio France. Laissez-vous emporter par la virtuosité des deux grands concertos pour violon de Béla Bartók et de deux grandes pages pour orchestre, la Symphonie de Franck et la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de Mikko Franck. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des manifestants, enseignants, élus, anonymes, défendant la liberté d'expression, disant non à l'obscurantisme. Ils étaient hier des milliers dans plusieurs villes de France à rendre hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans sa classe. Parole d'enseignants dans un instant et réponse de l'exécutif qui tenait hier soir un conseil de défense à l'Élysée. Dans ce journal, nous irons aussi dans le Haut-Karabakh où les combats continuent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Rencontre sur place avec des franco-arméniens venus prêter main forte à leur pays. Et puis direction l'Inde où des écoles en plein air voient le jour malgré le Covid-19. C'est en fait la seule solution pour suivre l'éducation des enfants les plus pauvres dans le pays. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies hier partout en France pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur assassiné vendredi après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. À Paris, place de la République, était notamment présent le Premier ministre Jean Castex, de nombreux représentants politiques, des représentants syndicaux ou associatifs également. Un rassemblement surtout porté par des anonymes, dont de nombreux enseignants inquiet. Valentin Dunat a rencontré l'un d'eux.
Vous brandissez la dernière une, l'une des dernières unes de Charlie Hebdo.
Je les ai toutes, je suis abonnée. Tout ça pour ça, oui. Tout ça parce que c'est dur d'être aimé par des cons et des connes. Et qu'il ne faut plus jamais qu'on égorge qui que ce soit. Je suis grande gueule, assez libertaire dans l'esprit. Et j'ai failli aussi peut-être être égorgée à la place de Samuel Paty. Il faut contrer par le questionnement, pas par les affirmations. Parce que notre jeunesse, elle est en péril avec les réseaux sociaux. Je suis très émue parce que voilà, j'aurais pu aussi être à sa place et que tous les collègues, tous mes élèves, mes proches, ma famille, mes enfants qui sont enseignants aussi, ils auraient pu y passer aussi.
Une colère enseignante mêlée à l'inquiétude hier dans les cortèges. Colère à laquelle Emmanuel Macron a tenté de répondre hier soir lors d'un conseil de défense. Les préfets, a-t-il dit, ont 15 jours pour préparer la rentrée du 2 novembre après la Toussaint et pour assurer la sécurité des établissements scolaires, en particulier dans les zones considérées comme sensibles. Le chef de l'État a également demandé à ses ministres des actions rapides et concrètes, principalement sur Internet, Simon Le Baron.
Frapper vite et fort sur les réseaux sociaux, détecter plus efficacement les appels à la violence pour mieux riposter. C'est la volonté d'Emmanuel Macron, alors qu'une vidéo postée la semaine dernière est au cœur de l'enquête. Le père d'une élève s'en prenait au professeur qui avait montré des caricatures de Mahomet en classe et dévoilait son identité. Le gouvernement veut donc renforcer ses actions de veille sur les réseaux et il prépare son contre-discours à destination des Français, mais aussi des pays arabes, où les annonces du président sur le séparatisme ont été déformées et interprété selon l'Élysée comme une croisade anti-musulmans. Sur le terrain, l'exécutif va lancer des actions policières et judiciaires contre ceux qui se sont réjouis de l'attentat. 80 messages de soutien ont été identifiés, mais aussi contre les individus et les associations soupçonnés d'avoir créé un contexte favorable au passage à l'acte. Des actions seront menées dès les prochains jours. Ça, c'est pour la réponse immédiate. Et puis, à plus long terme, Emmanuel Macron demande à ses ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation de compléter, d'enrichir son projet de loi contre le séparatisme islamiste. Le texte doit être présenté le 9 décembre en Conseil des ministres.
Simon Le Baron, et j'ajoute que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande déjà au préfet d'expulser 231 personnes fichées S en France pour radicalisation à caractère terroriste, des étrangers en situation irrégulière à chaque fois. Le cessez-le-feu aura duré à peine quelques heures entre Arméniens et Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh. Le conflit entre finalement dans sa quatrième semaine ce matin, sans véritablement de répit. Les victimes se comptent désormais par centaines dans les deux camps. Notre envoyé spécial est toujours sur place, Claude Brouillot, qui a rencontré au milieu des soldats de métier et des volontaires aguerris de jeunes franco-arméniens qui ont tout quitté pour essayer de leur venir en aide. Voici son reportage.
Sipan Mouradian contrôle les véhicules civils qui montent entre les camions militaires dans le corridor de Latchin, axe routier vital entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Il y a deux semaines, ce jeune franco-arménien de la communauté d'Alfortville dans le Val-de-Marne, formé au Conservatoire National d'Art Dramatique, était encore sur les planches quand il a décidé de tout quitter pour, dit-il, aider son peuple.
Moi, je sais pas me battre. Je suis venu en sachant que j'irai pas jusqu'au front parce que je sais pas tenir une arme et je sais pas tuer. Aujourd'hui, je suis là et je me rends compte que je suis vraiment pas loin du front. Peut-être que je ferai du café pour les gens qui se battent au front. C'est une guerre qui n'a pas de nom parce qu'ils se battent, j'ai l'impression, contre des fantômes qui sont au-dessus de leur tête et il y a une pression monstre. On entend tous les soirs des drones, on voit des missiles qui sont tirés pour se défendre. Mais c'est une technologie très avancée par rapport à l'Arménie. C'est inhumain ce qui se passe. C'est la continuité du génocide arménien. Moi, j'ai juste envie de dire ça.
À proximité du point de passage entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, ils sont comme Sipiane Mouradian, une demi-douzaine de jeunes arméniens francophones. D'autres viennent des États-Unis ou même de Jérusalem. Pour lutter contre le froid la nuit, ils dorment à plusieurs dans des voitures ou des tentes au bord de la route qui mène au col. Ils n'ont pas d'armes, mais ils disent qu'en défendant le Haut-Karabakh arménien, ils ont trouvé un sens à leur vie.
Claude Bruyot dans le corridor de Latchine pour France Culture. L'Arabie Saoudite a ouvert hier aux fidèles la Mecque, le site le plus sacré de l'islam, une première en 7 mois, grâce à une baisse du nombre de contaminations au Covid-19 dans le pays. Même assouplissement en Israël où, après un mois de restrictions, crèches, écoles maternelles, parcs nationaux, plages et entreprises n'accueillant pas de public ont rouvert. Ces quelques améliorations locales ne renversent toutefois pas la tendance mondiale. Les indicateurs sont toujours au rouge avec près de 40 millions de contaminations dans le monde. Ce matin d'ailleurs, nous partons en Inde où l'épidémie est loin d'être contrôlée. Les écoles restent toujours fermées avec des cours sur Internet pour les enfants les plus riches. Et pour les autres, des particuliers ont ouvert des écoles à ciel ouvert dans la banlieue de New Delhi notamment. Sébastien Fercy s'y est rendu.
Un tableau noir, quelques chaises, la classe se déroule en plein air au bord d'un chantier de construction du métro aérien. Au-dessus, les énormes ponts en béton déjà construits offrent un abri à la vingtaine d'écoliers de ce quartier pauvre de Mayur Vihar, en banlieue est de New Delhi. Priti, 15 ans, finit un cours de maths. Comme tous, elle allait avant à l'école publique.
Notre école organise un cours quotidien en ligne de 40 minutes. Mon frère me prête son téléphone portable, mais nous n'avons pas d'électricité pour le recharger et la connexion Internet est mauvaise. Au moins ici, on peut apprendre et poser des questions.
Dans ce terrain vague ensablé, 3 autres écoles improvisées ont ainsi vu le jour ces derniers mois pour aider ces enfants. Celle-ci est tenue par 2 bénévoles, dont Rajat Patra, un ingénieur de 33 ans.
Ces classes régulières sont importantes car sinon ces enfants ne comprendront pas bien les cours. Ils vont perdre toute motivation et arrêter l'école. Et comme leurs parents sont des agriculteurs non éduqués, ils vont les inciter à travailler avec eux.
Le gouvernement de New Delhi reconnaît que 15% des élèves des écoles publiques sont déjà introuvables. Cela représente 225 000 enfants, rien que dans la capitale.
C'était Sébastien Farcy à New Delhi pour France Culture. En Europe, la deuxième vague de Covid-19 est bel et bien là, amenant des pays à prendre un à un de nouvelles restrictions. Couvre-feu nocturne en Belgique, par exemple, à partir d'aujourd'hui, de minuit à 5 heures du matin. L'Europe enregistre au total 250 000 morts du Covid-19 depuis le printemps. En France, il y a eu plus de 33 400 morts, dont 85 hier. Le nombre de malades en réanimation continue par ailleurs de progresser, dépassant les 1900 ce matin dans les hôpitaux. Un virus et des mesures qui, on l'a dit, mettent en grande difficulté financière certaines entreprises, restaurants, cinémas, théâtres et leurs salariés, pour ne citer que. La semaine dernière, après un cafouillage politique, le gouvernement a confirmé une aide de 150 euros pour les jeunes qui bénéficient des aides au logement, ainsi que pour tous les étudiants boursiers. Les moins de 25 ans sont en effet particulièrement touchés par la crise économique en ce moment et les associations, les syndicats aimeraient que le gouvernement aille plus loin en leur faveur. Ils demandent l'ouverture du RSA pour toute cette tranche d'âge, comme nous l'explique Tom Chevalier. Il est chercheur au CNRS, spécialiste des politiques en faveur des jeunes.
C'est une nécessité aujourd'hui pour 2 raisons en fait. Une première raison qui est que le RSA, c'est le premier dispositif de lutte contre la pauvreté. Or, les jeunes correspondent à la catégorie de la population, à la tranche d'âge la plus touchée par la pauvreté. Ils ont un taux de pauvreté près de 2 fois supérieur à la population générale. Ils sont 4 fois plus pauvres que les plus de 60 ans, les plus de 65. Donc c'est vraiment la première catégorie de la population qui est touchée par la pauvreté, alors que dans le même temps, c'est la seule du coup catégorie de la population qui ne peut pas avoir accès au principal dispositif de lutte contre la pauvreté, donc au RSA, en raison de cette limite d'âge à 25 ans. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le décalage qu'on peut trouver entre les limites d'âge qu'on a en France. Donc on a des limites d'âge, en gros, pour accéder à l'âge adulte, souvent autour de 18 ans. Par exemple, pour la majorité civile, 18 ans. majorité politique, le droit de vote, 18 ans. Et en fait, on a cette exception de l'accès à la citoyenneté sociale avec cet âge à 25 ans. C'est deux paradoxes en fait qui justifieraient l'ouverture du RSA au moins de 25 ans.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. La météo de ce lundi, un temps lumineux et sec avec 6 degrés à Lille ce matin, 7 à Paris, 13 à Nice. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure du journal des idées à 6h40 et c'est avec vous Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Après l'assassinat vendredi d'un professeur qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet en classe, les réactions Jacques se multiplient dans la presse.
Oui, au 34e jour du procès des attentats de janvier 2015, c'était samedi dernier, la décapitation d'un enseignant par un islamiste fait passer le procès au second plan. Yannick Enel, qui en assure la chronique quotidienne pour Charlie Hebdo, marque un temps pour tenter de penser l'impensable. Si j'assiste à ce procès, écrit-il, c'est parce que je crois que le mal ne doit pas être seulement dénoncé et combattu, mais pensé, c'est-à-dire expliqué. Le professeur qu'il a été pendant plus de 15 ans en région parisienne, dans des collèges de banlieue où la violence sociale ne s'arrêtait jamais, sait combien s'efforcer chaque jour d'expliquer est fondamental. Expliquer n'est pas justifier, expliquer n'est pas provoquer. Et c'est exactement ce que faisait ce professeur Samuel Paty dans son cours d'éducation civique. Il expliquait ce que signifie être libre en France. Penser la violence, le mal, la terreur politique ou l'islamisme radical, penser les religions, la foi, le blasphème, la pensée appelle la pensée, c'est-à-dire le dialogue, souligne l'écrivain. Le boucher de Conflans-Sainte-Honorine, c'est Daesh à la maison. Un message solennel en forme de cérémonie macabre, un avertissement pour tout le corps enseignant, dénonce Pascal Bruckner dans le Figaro Vox. Il revient sur le procès Charlie qui réveille toutes les haines. Les témoignages des accusés illustrent cette banalité du mal. De pauvres types endoctrinés, souvent encouragés par leur famille ou leurs proches, se croient investis d'une mission divine et doivent absolument égorger un infidèle pour gagner leur paradis et venger le prophète. L'écrivain relève que les représentants de l'islam de la République, avec une dignité et un courage remarquables, condamne sans équivoque ces actes abjects. Dans lemonde.fr, Louise Couvelaire revient sur l'enchaînement des événements qui ont fait d'un incident mineur dans une classe devenu un événement hors de contrôle. L'enquête pointe notamment le rôle des réseaux sociaux dans le rassemblement citoyen devant les portes du collège du Bois d'Aulne le lendemain du drame. L'humoriste Yacine Bellatar était présent. Il est né à Conflans-Sainte-Honorine. Il confirme qu'un parent d'élève s'indigne sur les réseaux à défaut d'en parler avec le professeur concerné raconte une époque. En balançant ça sur Internet, il a créé un monstre. On m'a envoyé la vidéo d'Algérie, s'étonne Linda, également présente au rassemblement de samedi. Elle dit l'avoir reçue au moins 10 fois par des biais différents, quelques jours. Que la fille ait menti ou non à son père, qu'importe, tranche Farid Benlaga, citoyen choqué, ancien professeur de mathématiques. On n'organise pas une vendetta sur Internet, les conséquences sont trop graves. Pour Luc Levaillant, sur le site de Libération, il n'est pas neutre que Samuel Paty ait été en charge d'enseigner l'histoire. L'histoire est un processus évolutif, ce n'est pas une vérité révélée. L'histoire n'est pas Dieu et diable, paradis et enfer, bien et mal, vice et vertu. L'histoire est d'autant moins une Bible ou un Coran que ce n'est pas une voie unique ou une morne pleine. Courrier international relaie les réactions dans la presse étrangère. Pour la Stampa, Paris paie une fois de plus le prix fort pour ne pas vouloir céder à la menace djihadiste et qui continue d'être très élevée en France. Le Wall Street Journal rappelle qu'Emmanuel Macron et son gouvernement travaillent sur une loi visant à rendre illégal le séparatisme islamiste. En visant un professeur, l'attaque de vendredi aura probablement pour effet d'amplifier les appels à la répression de l'extrémisme religieux. Le drame rappelle l'histoire récente des attaques terroristes en France. Un assaillant, choisissant soigneusement une victime censée symboliser une offense envers l'islam, observe le New York Times. Un homme offensé est un homme qui ment, disait Nietzsche, cité par Yannick Enel. On sait qu'au départ, il y a le mensonge d'une adolescente qui a caché à son père les véritables raisons de son exclusion temporaire et qu'elle n'était pas présente le jour du cours d'éducation civique. Que le père a menti sur la prétendue islamophobie d'un professeur en refusant d'avoir une explication avec lui. Qu'il a menti également en portant plainte pour diffusion d'images pornographiques. Et que les réseaux islamistes ont ensuite instrumentalisé cet enchaînement de mensonges. Les tueurs qui se disent offensés par les caricatures de Mahomet mentent pour justifier leur volonté de tuer. Ils mentent sur l'islam, ils mentent sur Mahomet, conclut Yannick Enel. Celui qui aime sa religion et sa foi n'est jamais offensé, surtout pas par l'humour. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui, l'Iran travaille à un accord colossal avec la Chine.
Oui, hier expirait l'embargo des Nations Unies sur les ventes d'armes conventionnelles à l'Iran sans qu'aucun nouveau mécanisme ne vienne prendre la suite. À ceux qui s'inquiètent d'une reprise de ses activités nucléaires et balistiques, l'Iran assure qu'il n'a aucun besoin de se lancer dans une frénésie d'achat d'armes et que ses éventuels achats à venir ne lui serviront qu'à se défendre. Parmi les pays qui ont déjà manifesté leur intérêt de développer une forme de coopération militaire avec l'Iran une fois l'embargo levé, il y a la Russie. Et il y a surtout la Chine. Téhéran et Pékin négocient depuis plusieurs semaines déjà un accord commercial et militaire pour les 25 années à venir. En contrepartie d'un pétrole et d'un gaz décotés, vendus 30% moins cher que les prix du marché, le régime des mollahs devrait obtenir de Xi Jinping qu'il investisse 400 milliards de dollars dans l'économie iranienne. Bonjour Clément Terme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur post-doctorant au CERI à Sciences Po Paris. Comment l'Iran, qui avait imposé l'année dernière une hausse de 300% du prix de l'essence aux Iraniens, ça avait provoqué un soulèvement populaire de plusieurs semaines, comment l'Iran peut se permettre de brader son pétrole à destination de la Chine ?
De toute façon, l'Iran essaye de vendre du pétrole à la Chine. Donc pour l'instant, la situation est très mauvaise pour l'Iran, puisque l'Iran exportait 2 millions de barils par jour avant le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en 2018. Aujourd'hui, l'Iran exporte moins de 300-400 000 barils par jour. Et la Chine a beaucoup réduit ses importations de pétrole iranien, puisque on observe une baisse de 65% des importations chinoises depuis l'Iran, alors que les exportations chinoises vers l'Iran, elles ne baissent que de 7%. Donc on voit que l'Iran a plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin de l'Iran.
Alors comment ça se fait d'ailleurs que les importations chinoises de pétrole iranien aient tant baissé, parce que la Chine ne craint pas tellement les sanctions américaines ?
En fait, la Chine s'adapte au contexte international, à la crise économique et aux sanctions américaines, puisque les banques chinoises ont des problèmes pour travailler avec l'Iran, même s'il y a un accord de troc, donc pétrole contre marchandises, qui est très défavorable à l'Iran. Donc les Chinois ne sont pas complètement exclus du champ des sanctions américaines. Et donc il est de plus en plus difficile pour les Chinois également de travailler avec le marché iranien.
Alors est-ce à dire que c'est cette levée de l'embargo là qui date d'hier qui va permettre à la Chine et à l'Iran de signer cet accord qui va engager quand même la Chine à hauteur de 400 milliards de dollars d'après ce qu'on en sait sur les 25 années à venir?
Pour l'instant, l'accord n'a pas été conclu. Donc c'est un accord qui est en cours de négociation. Donc le président iranien Rouhani a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Chine pour poursuivre ces négociations. Il faut savoir que la Chine a investi de 2005 à 2019 27 milliards de dollars en Iran. Donc l'ambition sur 25 ans de 400 milliards est immense. L'idée, c'est pour les Chinois d'avoir des investissements dans le secteur de l'énergie, les infrastructures, la chimie, les minerais. Donc il y a une complémentarité économique, mais en même temps, l'Iran ne peut pas se permettre de n'avoir des relations qu'avec la Chine. Donc c'est tout le problème de la négociation de cet accord du point de vue iranien. Et c'est pour ça que l'opposition iranienne en exil proteste contre cet accord.
Notamment, oui, parce qu'on va, même à l'intérieur de l'Iran et du régime des mollahs, tout le monde n'est pas d'accord, notamment de signer un accord avec un pays qui opprime sa minorité musulmane, les Ouïghours, et puis d'autres raisons font émettre des critiques, notamment au Parlement iranien.
Oui, alors c'est la question de l'abandon de la souveraineté qui pose problème du point de vue des opposants iraniens. Une dépendance, je l'ai dit, de plus en plus forte de l'Iran vis-à-vis de la Chine. Et enfin, je pense qu'il y a aussi la question de la préférence pour la technologie occidentale qui est très forte en Iran. Et donc, c'est pour ça qu'en 2015, après l'ouverture, c'était plutôt les Européens qui avaient fait leur retour sur le marché iranien parce qu'il y a un tête-à-tête entre l'Iran et la Chine qui n'est pas favorable aux intérêts économiques, aux intérêts nationaux de l'Iran.
On verra si la Chine réussit à construire en Iran l'infrastructure d'un réseau 5G. C'est en discussion en tout cas. Est-ce que l'Iran est sur la carte imaginée par Pékin pour ses nouvelles routes de la soie?
Oui, tout à fait. Et l'administration Trump, par sa politique de pression maximale et de double confrontation à la fois contre l'Iran et contre la Chine, pousse les deux pays à se rapprocher très fortement. Donc il y a aussi un facteur extérieur, et donc on peut imaginer que si l'administration Trump est réélue, l'Iran et la Chine poursuivent ce partenariat. Maintenant, si une administration démocrate est élue, il y aura sûrement une stratégie plus intelligente pour évoluer vers des coopérations plus sectorielles, notamment entre les États-Unis et la Chine, et à ce moment-là, la Chine pourrait privilégier ses relations avec Washington par rapport à ses relations avec l'Iran.
Sur l'Iran, Joe Biden s'est déjà engagé à réintégrer l'accord sur le nucléaire s'il était élu. On verra au-delà du 3 novembre. Vous disiez tout à l'heure que certains en Iran s'inquiètent de la question de la souveraineté iranienne face à la Chine. Des rumeurs disent que l'Iran va vendre à la Chine certaines de ses îles dans le golfe Persique. Qu'est-ce que ça voudrait dire exactement? En quoi ces îles pourraient intéresser la Chine?
Alors il faut faire attention à ces
C'est
fuites.
Vraiment des rumeurs.
Ce sont des fuites en fait, c'est un accord qui n'a pas été conclu et qui doit être ratifié par le Parlement iranien. À ce stade, la Chine a déjà un partenariat stratégique de même ordre que celui qui est négocié avec l'Iran, avec deux pays de la région que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc si la Chine conclut un accord stratégique avec l'Iran, ce ne sera qu'un troisième accord dans la zone, puisque les accords principaux pour l'instant sont conclus avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ce qui pousse les Iraniens de l'opposition à protester contre cet accord, c'est pas tellement d'avoir de bonnes relations avec la Chine, puisque le régime précédent du Shah d'Iran avait également d'excellentes relations avec la Chine. C'est l'exclusivité de ces relations, le risque d'une dépendance du fait de l'opposition de plus en plus forte entre l'Iran et l'Occident à la suite du retrait américain de l'accord sur le nucléaire en 2018.
D'ailleurs, vous parlez de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Il n'est pas sûr que ça leur plaise beaucoup, cet accord en préparation entre la Chine et Téhéran, les pays arabes du Golfe Persique, alliés de la Chine, ne sont pas les amis de l'Iran.
Oui, de même que la Chine a d'excellentes relations avec Israël, qui est aussi un rival de l'Iran. Donc la Chine ne va pas avoir un rapport exclusif avec l'Iran. Et ces trois pays vont être aussi une contrainte sur la conclusion de cet accord et certainement en limiteront le champ.
Alors on a bien compris, Clémentine, que cet accord n'avait pas été ratifié. Cependant, les fuites que vous évoquiez nous permettent d'en savoir quand même un petit peu plus sur ce qui est en préparation et ce que chacun voudrait de l'un dans l'un et l'autre des camps. Sur le plan militaire, par exemple, qu'est-ce qui pourrait avoir été négocié? On parle d'un accord commercial et militaire.
Alors il y a des exercices conjoints qui ont déjà lieu entre les marines des deux pays.
Où ça?
Dans l'océan Indien, il y a eu des opérations aussi conjointes avec la Russie, dans le cadre de aussi un rapprochement dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation régionale dominée par la Chine. Il y a aussi la possibilité de vente d'armes chinoises, mais là aussi, les marchés arabes sont plus lucratifs que le marché iranien, et le budget de la défense iranien se situe entre 12 et 20 milliards de dollars par an, ce qui est 4 à 5 fois moins que l'Arabie Saoudite. Donc on voit que même si l'avantage de l'Iran pour la Chine est l'absence des Occidentaux sur ce marché, il y a quand même des difficultés structurelles et le fait aussi que l'Iran n'exporte pas de pétrole pour l'instant. Donc il faudrait qu'il y ait quand même une reprise des exportations pétrolières iraniennes pour que l'Iran ait les liquidités nécessaires pour acheter des armes, qu'elles soient russes ou chinoises.
Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on dit déjà que la Chine pourrait peut-être à l'avenir donc bénéficier de l'accès aux ports et aéroports iraniens, que d'après les fuites, l'accord semble parler d'une présence militaire chinoise en Iran. Alors est-ce que c'est sous la forme de base ou d'un accès privilégié à la mer Caspienne? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais il faut rappeler que la constitution iranienne, elle interdit quel pays étranger que ce soit à bénéficier d'installations militaires sur le sol iranien.
Oui, alors ce qui inquiète, c'est parce qu'il y a eu, pendant la guerre de Syrie, une base russe, une base iranienne qui a été utilisée par les forces militaires russes en Iran près d'Hamadan. Donc il y a quand même un risque que secrètement il y a un accord. Donc il y avait déjà suscité à l'époque une opposition sur cette question de la présence militaire russe au Parlement iranien et au sein de l'opposition. Une autre inquiétude, c'est qu'il n'y a pas de conditionnalité dans les relations entre l'Iran et la Chine sur la question des droits de l'homme, alors que les Européens et les Occidentaux se refusent parfois à travailler dans les domaines sensibles avec l'Iran pour des questions de droits de l'homme. Donc c'est un risque supplémentaire dans le cadre de la répression des mouvements sociaux qui a lieu en ce moment en Iran.
Ou avec la Chine, qui pourrait d'ailleurs profiter de cet accord pour étendre son réseau de surveillance et vendre à l'Iran des technologies en ce sens. Et avec la levée de l'embargo hier, est-ce que d'ores et déjà des contrats d'armement sont en préparation ?
Pour l'instant, je vous l'ai dit, l'Iran n'a pas les capacités économiques. Donc il y a des protestations aussi internes en Iran sur cette question de ce qui est présenté en Iran comme une victoire de la République islamique et du président Rouhani, puisque les conditions économiques sont terribles pour la population et qu'on est dans une phase d'appauvrissement. Donc il y a de nombreuses critiques qui disent pourquoi acheter des armes alors qu'on peut même pas subvenir à nos besoins de première nécessité et que une partie de plus en plus grande de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc le risque pour l'Iran de se lancer dans une course à l'armement est aussi interne, puisque la population demande une priorité donnée au développement socio-économique du pays.
Bon, en quelques mots pour conclure, est-ce que un tel accord serait de nature à bouleverser les rapports de force au Moyen-Orient, comme on le dit, parce que on en parle avec un peu moins de précaution de cet accord de plus en plus que vous?
Non, pas du tout, puisque la Chine a déjà des accords du même type avec les Émirats Arabes Unis et la Chine, et il n'a pas de relation exclusive avec l'Iran. Donc ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine de se mettre dans une relation exclusive avec la République islamique d'Iran, qui a quand même de nombreux problèmes sur la scène internationale. Et l'exemple de la participation de l'Iran à l'organisation de la coopération de Shanghai, puisque l'Iran est toujours membre observateur et la Chine refuse que l'Iran devienne un membre à part entière du fait des sanctions américaines.
Merci beaucoup Clément Terme d'avoir été avec nous, l'Iran et ses alliés. Mais votre livre à vous, c'est l'Iran et ses rivaux entre nations et révolutions aux éditions Passé Composé. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
On disait de Matisse que c'était un bourgeois et que sa peinture jugée décorative n'était pas en mesure de nous remuer les tripes.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eh bien, 150 ans après sa naissance et alors qu'une exposition le célèbre au Centre Pompidou à Paris, on se rend compte qu'il était bien au contraire un peintre de l'avant-garde qui cherchait, et comment s'en plaindre, à alléger par l'harmonie de sa vision la vie de ses contemporains.
La compagnie des œuvres, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur l'application Radio France.
8 mois après le début de la crise du coronavirus, c'est bien le FMI qui l'a dit par la bouche de son responsable des affaires budgétaires. Les gouvernements devraient envisager des impôts plus élevés pour les ménages les plus aisés.
Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et cela alors même que la fortune des milliardaires a atteint de nouveaux sommets. Alors, faut-il taxer les riches ?
Le temps du débat, ce lundi à 18h20 sur France Culture et sur l'application Radio France.
Vous écoutez France Culture, bonne matinée, bon début de semaine et bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Qu'est-ce qui a été visé en Samuel Paty ? C'est votre humeur du jour.
Ce terroriste islamiste ne s'est pas seulement attaqué à un enseignant, Samuel Paty, professant le dialogue et l'ouverture, la laïcité et la coexistence. Il s'en est pris à quelqu'un qui enseignait le rire. Ce qu'il y a de plus singulier dans ces assassinats, depuis le premier attentat contre Charlie Hebdo en 2011, c'est que les terroristes visent le rire. Ces fanatiques ne s'en sont pas pris à des prêcheurs d'intolérance, à des promoteurs de haine, non. Ils s'en sont pris à des dessinateurs de crobards ou à ceux qui montraient ces petits crobards. Pourquoi cette obsession ? Pourquoi cette réaction inouïe face à des dessins humoristiques ? Ce qui est visé, ce n'est pas un humour, pas un humour jugé comme mauvais. Le mauvais humour suscite juste un haussement d'épaule et non un geste violent. En réalité, ça fait des siècles que les fanatiques haïssent l'humour. Cette haine est d'ailleurs au cœur de l'un des plus grands romans historiques du XXe siècle, Le Nom de la Rose, d'Umberto Eco. Souvenez-vous, dans Le Nom de la Rose, le personnage central, Guillaume de Baskerville, est un jeune franciscain amoureux du rire. Il affronte un vieux moine aveugle, contempteur du rire, Jorge de Burgos. D'ailleurs, il est largement question dans Le Nom de la Rose, alors non pas des caricatures de Mahomet, mais d'un de leurs équivalents pour l'Église du Moyen-Âge, un texte parodique et truculent, Les Sénats Cipriani rédigés au IXe siècle, où il est notamment question d'un banquet où Jésus mange un âne à belles dents. Or, l'Église condamne le rire. Il n'y a pas de passage, par exemple, présentant Jésus riant. Et la règle monastique de Saint Benoît interdit, je cite, « le rire prolongé ou aux éclats ». Pourquoi cette haine du rire ? Parce que le rire est la libre interprétation. Il doit permettre une lecture au premier, au deuxième, au troisième degré. On peut rire ou ne pas rire. Le rire est de la liberté et souvent on n'y peut rien. Il n'y a rien de pire que de se forcer à rire. D'où ce que Guillaume de Baskerville répond au moine Georges de Burgos dans la scène finale du Nom de la Rose. « Le diable est la foi sans sourire. Je te hais, Georges, et si je pouvais, je te mènerais en bas sur le plateau nu avec des plumes de volatiles enfilées dans le trou du cul et la face peinte comme un jongleur et un bouffon pour que tout le monastère rie de toi et n'ait plus peur. » Guillaume de Baskerville avait raison, rire des fanatiques est la meilleure manière de les montrer pour ce qu'ils sont, des bouffons.